Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM et il est 9h30, tout de suite les titres avec Emma.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, voici les titres d'aujourd'hui. La marche à blanc du tram a débuté hier, une phase importante en vue de sa mise en service. L'Université de Liège organisait ce mardi son premier module sur la rédaction du mémoire de fin d'études, l'occasion de revenir sur la complexité d'un tel travail. Et enfin, le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle s'est achevé hier, compte rendu en fin de journal. Hier, c'était la première journée de marche à blanc du tram à Liège. Pendant 2 mois, des tests dynamiques à vide seront réalisés sur toute la ligne. Une phase cruciale, Morgane Pérez, avant l'entrée en usage du nouveau transport en commun.
Ce son de cloche, il faudra s'y habituer. Le tram liégeois s'invite officiellement dans la circulation, mais sans ses passagers. Daniel Watley, responsable communication du tram.
C'est la formation de l'ensemble des conducteurs à toute la ligne, puisque jusqu'à présent, ils étaient dans une zone de formation. C'est une manière de vérifier l'ensemble du bon fonctionnement du système d'exploitation du tram. Et pour terminer la marche à blanc, on fera progressivement un test avec l'ensemble des rames qui sont censées rouler en mode exploitation.
Les commerçants de la rue Ferronstré attendent avec joie le passage de l'engin. Ils ont souffert des travaux et retrouvent enfin espoir. Cécilia Le Boulanger, employée d'un magasin.
Ça va quand même faciliter beaucoup le transport et puis je pense que les gens vont être motivés à venir plus vers le centre.
Le tech appelle à la prudence. Le tram est silencieux et il a toujours priorité. La première matinée de la marche à blanc ne s'est d'ailleurs pas déroulée sans difficulté. Daniel Watley.
Là, on vient d'avoir un cas exemplaire, malheureusement, de blocage de la ligne qui a interrompu le trafic parce qu'un camion qui n'avait pas l'autorisation est venu injecter du ciment sur un toit. Et ça, c'est pas possible.
Des travailleurs en gilet fluorescent sont toujours sur place. Ils effectuent des travaux de dernière minute avant la mise en circulation officielle.
Merci Morgane. Majorité et opposition se sont déchirées hier au Parlement wallon sur la reconstruction des communes après les inondations de 2021. En commission, les parlementaires mènent actuellement des auditions dans le cadre du réaménagement de la vallée de la Vesdre. La majorité MR engagée souhaite entendre les autorités publiques, les opérateurs économiques et le secteur de la construction. L'opposition, quant à elle, formée par le PS, Écolo et PTB, souhaitait y ajouter la voix des habitants, mais la proposition a été rejetée. Pour les étudiants, l'esprit est aux études et plus particulièrement à la rédaction du fameux mémoire, dernière ligne droite de la maîtrise universitaire. Et pour les aider, Célia Hélas, l'Université de Liège organise plusieurs modules mémoire.
C'est à Frédéric Sanon, chargé d'enseignement et de formation de français, que revient la mission d'éclairer la lanterne des étudiants. Il rappelle également que ces règles de typographie ou de normes bibliographiques, par exemple, n'existent pas seulement pour les embêter.
C'est aussi un gage de sérieux et à terme de scientificité. Il y a des choses qu'on peut peut-être contester ou dont on peut se dire mais à quoi est-ce que c'est utile. Mais à d'autres moments, on peut s'apercevoir aussi que c'est parfois un peu rassurant d'avoir des règles qui schématisent la pensée.
Une question de crédibilité et de rigueur donc, mais également d'harmonisation et de lisibilité. Finalement, parmi les 320 étudiants inscrits, la séance ne convainc pas tout le monde quant à son utilité, comme l'explique Antoine, étudiant en psychologie.
J'avoue que je suis relativement déçu, j'aurais bien voulu quelque chose de plus spécifique. Bah, je ressors de là ouais, un peu frustré, où je me dis j'ai peut-être plus perdu mon temps qu'autre chose, donc je me sens pas tellement aidé, non.
Mais pour d'autres, comme Charlotte, étudiante en logopédie, la séance était utile, mais pas forcément rassurante.
Je suis plus stressée, mais par contre le document qui nous file et qui nous explique, il est bien fourni, donc là je suis plutôt contente d'avoir ce document maintenant.
Un mélange de stress et de soulagement, preuve que dans la rédaction d'un mémoire, comme dans beaucoup d'autres choses, mieux vaut être bien préparé, même si ça fait un peu peur au début.
Et le prochain module sera consacré à la défense orale du mémoire et se déroulera le 8 mai. La grève se poursuit chez Bipost. La réunion hier entre direction et syndicats n'a rien donné. 3 centres de tri sur 5 sont maintenant bloqués. Après la Wallonie, Bruxelles est aussi touchée. Seuls les centres de tri de Anvers et de Gand continuent de fonctionner. Et du côté de la SNCB, 3 syndicats minoritaires ont déposé 2 préavis de grève hier, l'un de 5 jours, du 23 au 28 février, l'autre de 9 jours cette fois, du 21 février au 2 mars. Les 2 syndicats principaux, la CGSP et la CSC, rencontrent aujourd'hui Jean-Luc Cruc, le ministre fédéral de la Mobilité. Ce n'est qu'après cette rencontre que les 2 gros syndicats se mettront d'accord sur un plan d'action graduel. Et demain, jour de manifestation nationale, c'est tout le pays qui tournera au ralenti. La tech et la STIB seront fortement perturbées. La SNCB, quant à elle, assurera le service pour permettre à un maximum de personnes de se rendre dans la capitale. Les syndicats s'attendent à plus de 50 000 personnes dans les rues. Dans les écoles, des garderies seront assurées pour pallier l'absence des enseignants partis manifester. Et si vous deviez vous rendre à l'aéroport, finalement aucun avion ne décollera ou n'atterrira ce jeudi. En politique, une énième possibilité voit le jour pour former le gouvernement bruxellois. Après le non catégorique du PS par rapport à la NVA, le CDNV devient la seule option. Hier, la porte s'est ouverte chez les démocrates chrétiens flamands. Rien n'est encore décidé pour combler le vide de l'exécutif bruxellois. Et toujours en politique, mais cette fois au niveau national, le MR et les engagés ont promis de nombreuses mesures pour redresser le pays depuis les élections de juin. Georges-Louis Boucher lui-même parlait de réformes basculantes. L'une d'entre elles portait sur la suppression des provinces. Thomas Géhonneau a pris contact avec le porte-parole du MR afin d'en savoir plus sur la situation actuelle.
La Belgique. Cœur de l'Europe est un pays d'un peu moins de 31 km² et d'un peu moins de 12 millions d'habitants. Pourtant, les Belges vivent chaque jour avec un système politique qui n'est pas des plus simples à aborder. Avec ses régions, ses communautés, ses provinces et ses communes, c'est autant de pouvoirs qui interagissent les uns avec les autres au quotidien, avec tout un personnel attribué afin de faire tourner ce véritable casse-tête que certains pays ont peine à comprendre. Et certains souhaiteraient que cela change. Les partis politiques MR engagés avaient alors avancé lors de leur campagne qu'ils supprimeraient les provinces pour 2030. Cela a inquiété beaucoup de monde, étant donné le nombre colossal d'institutions et de personnels concernés par cette décision. Pourtant, depuis le 11 juin, les citoyens sont laissés dans l'interrogation, aucune nouvelle n'ayant été donnée depuis plusieurs mois sur le sujet. Kassem Fospré, porte-parole du MR, nous en dit plus.
Projet de vouloir en tout cas alléger, je dirais, la charge institutionnelle est toujours présente, c'est-à-dire que les provinces en tant que telles n'auraient plus le rôle qu'elles ont aujourd'hui. Le MR et les engagés partagent cette vision. Maintenant, d'un point de vue institutionnel, je pense qu'il faut une majorité des deux tiers pour pouvoir avancer sur une suppression totale, ce qui voudrait donc dire qu'un partenaire socialiste serait nécessaire et donc, puisqu'ils ne sont pas et que c'est un parti d'opposition, ça c'est un peu l'état actuel.
Les deux présidents de parti avaient assuré fin de l'année passée que les emplois concernés, principalement les conseillers et députés provinciaux, ne seraient pas supprimés, mais délocalisés dans d'autres secteurs. Mais il semblerait que cette suppression ne soit pas encore totalement claire du côté du gouvernement.
Merci Thomas, nous vous recevons maintenant en plateau. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Ce lundi, vous nous annonciez sur 48FM le début du sommet sur l'IA. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu en quoi consistait cet événement ?
Bien entendu. Le sommet de l'IA, c'est un événement qui a pour but de renforcer la place de l'Europe en matière d'IA, face aux géants que sont les USA et la Chine, avec ChatGPT et DeepSeek. Également, il souhaite harmoniser à l'international l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Ok, et qu'est-ce qui s'est dit finalement lors de ces deux jours ?
Si vous voulez, il y a trois grands moments qui se sont dégagés. Tout d'abord, nous en parlions déjà lundi, la France a annoncé débloquer 109 milliards d'euros afin de développer l'IA en France. Ce montant, plutôt conséquent, aurait pour but d'augmenter de 40 000 à 100 000 le nombre de chercheurs formés dans l'IA. Pour ce faire, un campus dédié serait construit en France, la localisation exacte n'étant encore actuellement méconnue. Également, une majorité de pays présents ont signé une déclaration défendant une intelligence artificielle ouverte, inclusive et éthique, afin d'aider à développer la coopération internationale. Les États-Unis, pionniers en matière d'IA, ont refusé de signer cette déclaration. D'autres pays, comme Israël et le Royaume-Uni, ont également refusé de la signer. Et pour finir, Elon Musk, propriétaire entre autres de Tesla et X, a proposé de racheter OpenAI, la société propriétaire de ChatGPT, pour 95 milliards d'euros. Sam Altman, le propriétaire d'OpenAI, a refusé. Il n'a d'ailleurs pas rechigné à faire une petite pique à Elon Musk sur les réseaux, lui proposant de racheter X pour 10% du montant qui lui avait été proposé pour OpenAI.
Merci Thomas pour ce compte-rendu. En foot hier, le Real Madrid a renversé Manchester City 3-2 en Ligue des Champions. Dortmund s'est quant à lui imposé 3-0 à Lisbonne, tandis que la Juventus a battu le PSV 2-1. Toujours en football, Ilaï Camara, le latéral gauche du Standard, a été élu meilleur joueur du mois. Ses statistiques n'étaient pas particulièrement hors du commun, mais son jeu général a fait la différence. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Belle journée à tous sur 48FM.